Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous. Vraiment très, très, très heureux de vous retrouver, chers auditeurs passionnés par la copropriété, pour une toute nouvelle émission. Et cette fois-ci, je ne suis pas venu seul, je suis venu entouré, bien entouré. C'est les As de la copropriété. Cette émission se veut informative, pédagogique, mais on va débattre aussi. On va aller chercher la petite bête dans des sujets copropriété, 100% copropriété. Je commence mon tour de table par vous, Alexis De Coster. Alors, Alexis De Coster, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, vous êtes directeur métier chez Crédit Agricole Immobilier.
Tout à fait.
Service immobilier. Mathieu Mialaret.
Bonjour, Gilles.
Bonjour, Mathieu. Vous êtes également directeur métier chez Foncia.
Absolument.
Foncia, directeur métier, donc ADB, syndic, gestion locative. Alexis, pareil. J'ai à ma droite Marie-Hélène Leca. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors Marie-Hélène Leca, vous êtes syndic également, gestionnaire de copropriété, directrice d'agence Auralia.
Auralia, absolument, oui.
Voilà, bienvenue à Radio Immo.
Merci.
Et enfin, en bout de table, j'ai Pierre-Édouard Lagrelais. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Gilles.
Avocat, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Bordeaux. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru chez Edilex, Le syndic de copropriété. Donc clairement, vous vous y connaissez.
Ah oui, on espère.
Allez, on va démarrer cette nouvelle émission par une séquence. C'est la première séquence, c'est la séquence numéro 1, c'est le point juridique.
Les As de la CoPro, le point juridique.
Le point juridique, on a deux questions. La première, c'est la mise en conformité des règlements de copropriété voulus par la loi Elan, modifiés récemment par la loi 3DS. Et je vais tout de suite donner la parole à Pierre-Édouard.
Oui, c'est une question d'actualité qui se pose, puisque la loi 3DS, qui est intervenue en février 2022, a modifié les obligations qu'avait imposées la loi Elan de modifier, de mettre en conformité les règlements de copropriété à certaines dispositions nouvelles. C'était les articles 206 et 209 de la loi Elan qui imposaient soit de mettre en conformité les lots transitoires, ceux qui comportent un droit de construire, avec la définition qui en a été donnée, et de faire simplement leur mention dans le règlement de copropriété lorsqu'ils ne figuraient que dans l'état descriptif de division. Et la même règle avait été prévue pour les parties communes spéciales ou les parties communes à jouissance exclusive lorsqu'elles n'étaient pas mentionnées dans le règlement de copropriété. Et donc les syndicats étaient sommés, dans un délai de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2021, de mettre en conformité les règlements de copropriété. On en parlera tout à l'heure de la pratique, mais on a constaté que globalement, ça n'était pas fait.
Et alors, difficulté.
La difficulté qui s'est effectivement tout de suite posée, c'était de savoir si les droits des copropriétaires, des droits peut-être mal mentionnés ou mal définis dans le règlement de copropriété ou dans les autres actes, risquaient d'être perdus. Il y a eu une controverse, il y avait une partie des auteurs qui nous disaient, une partie de la doctrine qui nous disait non, il n'y a pas de risque. Je pense qu'il y avait un risque et je crois que c'était la majorité de la doctrine qui avait soutenu ce risque. Et de ce fait, ce qui est d'ailleurs peut-être le signe que nous avions raison, le législateur est intervenu pour réformer la loi Elan et préciser que désormais il y a toujours une obligation qui incombe au syndic, qui est de solliciter l'Assemblée Générale pour modifier les règlements de copropriété, mais il a également été précisé que ça n'a pas d'incidence pour les syndicats.
C'est la loi 3DS
qui l'a précisé. Il n'y a pas d'incidence pour les syndicats et les copropriétaires s'il n'y a pas de mise en conformité des règlements de copropriété, en tout cas pour les droits antérieurs, pour les droits qui sont déjà dits acquis.
Pas d'incidence, ça veut dire pas de sanction. Les copropriétaires vont nous dire en Assemblée Générale qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas la mise en conformité. Ça veut dire pas de sanction. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?
Ça rappelle un peu la loi SRU, hein, c'est-à-dire la montagne qui a un peu accouché d'une souris. In fine, rien ne s'est réellement passé.
Le 13 décembre 2000, donc c'était 22 ans.
Il y a fort, fort longtemps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Concernant la loi Elan, les sanctions elles seront extérieures à l'avis de la copropriété, c'est-à-dire que ce n'est pas des sanctions financières, ça va être des copropriétaires qui peuvent signer si la répartition des charges en charges spéciales n'est pas réalisée, si la mise en conformité
n'a pas été faite. Donc un risque plutôt sur le contentieux du recouvrement des charges.
Entre autres, oui.
Pour un problème de répartition de charges qui ne serait pas conforme à la loi Elan qui existe toujours, les articles 206.
Ou la perte d'un droit pour les parties communes à jouissance privative, par exemple.
Tout à fait. Alors Mathieu, ça vous inspire quoi, cette réforme sur la réforme en l'espace de 3 ans?
Alors, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le déplorer. On a certainement des règlements de co qui vont rester en l'état et qui resteront difficiles à interpréter. Moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'il y a quelque part une prime aux mauvais élèves, ou plutôt un risque que les bons élèves, et là je pense aux gestionnaires qui ont déployé des trésors de persuasion pour expliquer à leur copropriétaire pourquoi il fallait absolument et il était obligatoire de mettre en conformité les règlements de co. Ben aujourd'hui, ils risquent de se retrouver un petit peu en porte-à-faux parce que, clairement, ça devient facultatif.
Les copropriétaires vont leur dire « vous nous avez vendu, entre guillemets, quelque chose qui voilà. est devenu inutile ».
Alors, il y a un risque, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Pour les plus anciens, il y avait des travaux de mise en conformité des ascenseurs aussi, voilà, qu'il avait fallu expliquer, qu'il avait fallu persuader, et puis finalement, c'est devenu facultatif. Ça, c'est le premier point. Et puis, j'ai un deuxième point, c'est que Pierre-Édouard l'a dit, le syndic a l'obligation néanmoins de porter la question à l'ordre du jour
chaque
de l'Assemblée
année.
Générale. Voilà, j'ai compris que c'était chaque année. Alors, je ne sais pas quelle est l'idée. L'objectif, c'est peut-être d'avoir les copropriétaires à l'usure. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça amène une lourdeur. Alors, je crois aussi qu'il y a le même sujet pour le plan pluriannuel de travaux. J'espère que ça ne va pas devenir une mode et que ça ne va pas se multiplier parce que nos assemblées générales, qui sont déjà extrêmement lourdes, risquent de devenir un peu un fourre-tout de décisions dont on sait déjà à l'avance qu'elles seront rejetées. Tout ça risque de ne pas avoir beaucoup de sens.
Ça risque même, j'ai envie de dire, de les énerver, les copropriétaires.
Moi, je trouve,
à un moment donné,
voilà.
Quand c'est non, c'est non. On a envie de dire, moi, le copropriétaire va me dire pourquoi vous nous remettez ça tous les ans à l'Assemblée Générale. Vous êtes bouché, vous n'avez pas compris. Alors, on va lui expliquer que c'est effectivement la loi, c'est obligatoire. Je vous remercie pour cette première question. On pourrait débattre encore très longtemps. Et j'enchaîne tout de suite sur la deuxième question de la séquence juridique. Et je commence avec vous, Alexis. On va parler de la conciliation. Conciliation obligatoire avant assignation. Ça aussi, c'est nouveau. C'est la réforme de la procédure civile. C'est 1er janvier 2021, entrée en vigueur. Comment on fait pour le recouvrement des charges? Parce qu'on parle d'un seuil de 5 000 euros.
Alors, c'est effectivement une nouvelle procédure qui est venue un petit peu, enfin, qui vient un peu alourdir aujourd'hui les procédures de recouvrement classiques, je dirais. C'est vrai qu'on a un arsenal, quand on regarde bien ce qui est intégré dans le contrat type de syndic, on a un arsenal juridique qui est quand même aujourd'hui assez efficient. On le voit bien, hein, parce que nos procédures de recouvrement, quand elles sont bien organisées, fonctionnent très très bien, entre la mise en demeure, entre la relance, on a le plan d'étalement de la dette potentiellement, on a potentiellement aussi la possibilité d'opérer par injonction de payer. Il se trouve en plus que les syndics mettent avant les mises en demeure, soit font de l'appel téléphonique, soit font un petit rappel par SMS ou par email. Donc en fait, je pense qu'on a un arsenal aujourd'hui qui fonctionne bien. Et en fait, cette nouvelle procédure, elle vient alourdir,
oui, parce que
quand se peut, si vous voulez, l'ensemble du recouvrement de charges qui demande malgré tout de la rapidité, de l'efficacité.
Parce que 5 000 euros, généralement, quand on est syndic, on assigne bien avant.
On assigne bien avant, tout à fait. Les provisions sont quand même exigibles les 1er janvier et 1er...
Donc le copropriétaire qui doit 2-3 000 euros, on va devoir passer par la phase conciliateur.
La phase
le syndic va devoir aller chez le conciliateur. C'est
exactement,
au syndic d'aller chez le conciliateur.
Le conciliateur, la conciliation c'est gratuite, enfin c'est gratuite, sauf qu'effectivement, si on va devant la conciliation, il faut quand même qu'on se déplace. Ça ne fait pas partie typiquement des prestations intégrées dans notre contrat type de syndic. Le risque qu'on y voit, c'est quoi? C'est que effectivement, ça allonge les délais de recouvrement, ça renchérit le coût de la procédure. Parce que la conciliation, autant la conciliation est gratuite, mais la médiation, c'est aussi payant. Il y a la troisième procédure qui est potentiellement encore un peu plus importante en termes de coûts. Et donc, du coup, le risque, c'est que potentiellement, en fonction de la taille des copropriétés, ça peut aussi aggraver la trésorerie de l'immeuble.
Donc, Mathieu, vous voulez dire quelque chose?
Allez-y.
Oui, moi, je pense qu'on
rapidement.
Peut... Très vite, mais juste une chose. Ce qui est un peu ironique dans cette histoire, c'est que le syndic, en plus, ne peut proposer aucun accord amiable, à part peut-être étaler les délais, étaler les paiements. Il ne va pas proposer une remise.
Il n'y a pas à discuter.
Il n'a pas de capacité à trouver un accord amiable autre que prendre un peu plus de temps, peut-être.
Donc, ça rajoute une étape supplémentaire. Je demande à l'avocat, parce qu'on est dans le contentieux, est-ce qu'on peut artificiellement gonfler les demandes pour arriver à ce seuil de 5 000 euros via des dommages et intérêts?
peut pas artificiellement gonfler, ce serait une fraude à la loi et ce serait risqué devant le juge s'il s'en rendait compte, évidemment. Et de toute façon, je pense que c'est pas dans l'intérêt des syndicats, des copropriétaires, ni dans l'intérêt des syndics qui ont une déontologie, je pense, solide de procéder de la sorte. Par contre, la question se pose de l'urgence et des dispositions de l'article 19.2 relative à la procédure accélérée au fond. Alors, elle n'est pas toujours très utilisée à Paris parce qu'il y a un circuit court, mais en province, elle est assez utilisée. J'en parlais avec des syndics à Toulouse il y a peu. Ils l'utilisent, ça fonctionne. Et on a une procédure qui est en fait une procédure accélérée et qui doit nous permettre d'aller plus vite. Et c'est vrai que les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure, en fait, elles entravent ce mécanisme légal. Et on peut se poser la question de la parfaite adéquation entre les deux mécanismes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut soutenir devant un magistrat pour expliquer qu'on n'a pas tenté parce qu'on a une disposition très spéciale dans la loi de 1965. Et juste peut-être pour élargir un peu le débat, on a une autre problématique qui risque de se poser. On verra les termes dans lesquels elles se présenteront, mais c'est pour le trouble anormal de voisinage, puisque dorénavant, suite à une réforme toute récente de février 2022, on va être également obligé de procéder de la sorte pour tous les troubles anormaux de voisinage. Et on sait qu'en copropriété, c'est un contentieux important à côté du contentieux de recouvrement.
Alors, je vous remercie à tous. Je rappelle qu'on n'a pas d'antisèche, il n'y a pas le code. Vous citez le code de procédure civile de tête. Je vous remercie pour cette première séquence et on passe à la deuxième séquence, la question du copropriétaire.
Les As de la copro, la question du copropriétaire.
Alors, on a interrogé les copropriétaires. On aurait pu les inviter sur le plateau, peut-être la prochaine fois. On a une première question d'un président de conseil syndical sur le fonds travaux. Le fonds travaux est-il suffisant ? On écoute.
Ma question a pour sujet le fonds de travaux inclus dans la loi Allure. Je suis propriétaire à Paris et membre du conseil syndical d'un immeuble vieillissant de 65 lots construit dans les années 60. Bien qu'ayant été régulièrement entretenu, notre copropriété doit entreprendre de plus en plus fréquemment d'importants travaux de rénovation. Le coût de ces travaux est sans commune mesure avec le fonds de travaux que nous constituons annuellement au niveau minimum de 5% du budget. Bien que louable dans sa conception, cette disposition de la loi Allure n'est, à mon sens, guère incitative pour disposer des sommes substantielles nécessaires au financement des travaux de rénovation. Ceci pour deux raisons. 1. Ce fonds de travaux n'est pas récupérable par les copropriétaires qui envisagent de vendre à terme leur lot. 2. Mais aussi parce que nous avons tendance à utiliser ce fonds pour payer des travaux de moindre importance. Ma question est donc la suivante. Comment, selon vous, pourrions-nous constituer et abonder de façon plus conséquente un fonds commun pour éviter des à-coups de dépenses qui mettent en difficulté certains d'entre nous?
Alors, merci. Marie-Hélène Leca, il a un peu tout dit. Vous confirmez, vous infirmez les petits défauts du fonds travaux. Ensuite, on verra éventuellement comment on peut l'améliorer.
Alors, le fonds travaux, donc, comme le disait très justement ce président de conseil syndical, 5% du montant du budget prévisionnel. Si on est sur une cible d'immeubles des années 60-70, souvent 60-100 lots, avec un budget prévisionnel, on va dire autour de 300-400 000 euros, ça ne fait pas des sommes folles à constituer. Et surtout qu'on a quand même le spectre qui arrive de plus en plus près, qui se rapproche de toute la loi climat et des rénovations énergétiques, où on part pour des millions d'euros, parfois, ou en tout cas plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un socle qui est très très juste et qui a aussi été mal employé, comme le disait le copropriétaire, avec la serrure, le groom et le local vide ordure. Voilà. Donc, mais ça va bouger.
Oui, parce que effectivement, le fonds travaux, ce copropriétaire l'explique, il n'est pas remboursable comme l'était à l'époque l'avance travaux triennale. Et c'est ça aussi qui pêche. Et c'est pour ça qu'on ne vote pas, que les copropriétaires ne vont pas au-delà des 5%. Alors, ils se disent, je vais épargner. Et si on n'utilise pas l'argent avant que je m'en aille, c'est mon successeur qui va en profiter.
Mais ça, c'est facilement. Alors oui, il y a cette crainte-là. Il y a ce côté, ils n'ont toujours pas compris aussi, parfois, les copropriétaires, qu'ils avaient bien un compte séparé, qu'ils avaient bien un compte Allure indépendant. indépendants qui étaient alors rémunérés avec ce que proposent les banques actuellement. Mais ça, c'est contournable. On peut faire des accords sous seing privé au moment de la vente pour qu'il y ait des remboursements qui soient faits. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pas un frein. C'est plutôt l'inertie parfois et la difficulté à se projeter et à se projeter dans des projets d'envergure. Et je pense que enfin, les évolutions de la loi climat, du PPT, enfin, mais ça, Mathieu, vous en parlerez.
Alors, Mathieu, Mathieu, merci Marie-Hélène. Mathieu, il y a du nouveau pour le fonds travaux?
Oui, alors le nouveau, ça va être le système de calcul de la cotisation, puisque vous le savez sans doute, mais les copropriétés vont avoir l'obligation de faire réaliser des projets de plan pluriannuel de travaux, hein, c'est-à-dire de faire passer des experts, des techniciens qui vont lister les travaux nécessaires dans les 10 années qui viennent et en faire une estimation. Et donc à partir de cette estimation, en fait, la cotisation au fonds travaux devra représenter au minimum 2,5% du montant des travaux estimés sur 10 ans, ou 5% du budget prévisionnel. Mais au-delà de ça, je pense que de toute façon, la réglementation, elle ne pourra jamais s'adapter à tous les besoins. Les besoins de cotisation, ce ne seront jamais les mêmes dans tous les immeubles. Et le dispositif actuel, il a l'intérêt déjà d'obliger un petit peu à cotiser, et puis surtout, il a l'intérêt d'obliger les copropriétaires à se poser la question, ensemble, en AG, combien devons-nous cotiser ? Pour répondre à ce président de conseil syndical, il demande comment on peut faire. J'ai envie de dire, il suffit de le décider. Alors,
il suffit de voter plus que 5%.
Voilà, on peut très bien le décider, on peut voter plus de 5%. Et moi, je trouve que le dispositif actuel est bien fait avec ce minimum de cotisation. On peut aller au-delà. Et avec, cette information des copropriétaires qui va arriver avec le projet de plan pluriannuel de travaux. Après, aux copropriétaires, entre eux, de décider d'adapter la cotisation selon les besoins réels.
Et je confirme que j'ai quelques immeubles qui votent quand même plus que 5%. Rare, mais j'en ai quand même quelques-uns. 15 ou 20%.
Ça vient avec le temps, c'est vrai que je pense que c'est une question. Beaucoup de pédagogie, je pense qu'il faut faire énormément de pédagogie, énormément d'informations. Peut-être question de culture aussi, hein, parce que... On a beau être le pays qui a presque inventé le système de la copropriété, je pense qu'on est le dernier pays à instaurer un peu ces fonds de travaux obligatoires. Ces fonds de travaux, ça existe en Allemagne, ça existe depuis très très longtemps.
Fonds de prévoyance,
les règles lagues, tout ça, c'est bien ancré dans ces systèmes-là et il n'y a pas de difficulté majeure pour abonder ces fonds. C'est-à-dire qu'effectivement, ils arrivent à se projeter pour réaliser un certain nombre de travaux. Et donc, nous, on est un petit peu les derniers à opérer un petit peu sur virement. On a l'exemple aussi, pour reprendre l'exemple des 5% du Québec qui avait fait déjà sa synthèse 20 ans après, qui démontre qu'effectivement, les 5% indexés sur un budget, ça n'a aucun sens, et que c'est effectivement en fonction des besoins intrinsèques de l'immeuble, hein, les besoins techniques, chaque immeuble a ses besoins propres, et donc c'est presque des métiers, alors ça viendra avec le plan pluriannuel de travaux, c'est des métiers technologues notamment qu'on a au Québec, mais qui seront en capacité de déterminer le vrai et le bon montant à abonder pour les travaux de rénovation.
Alors le dispositif reste nouveau, c'est la loi Allure, à l'échelle du temps de la copropriété ça reste encore récent, donc plutôt un bon dispositif qui a le mérite d'exister mais qu'il va falloir encore améliorer, on est parfaitement clair. Je vous remercie, on passe à la troisième séquence, le métier de syndic.
Les as de la copro, le métier de syndic.
Alors la séquence, le métier de syndic, là on va peut-être parler de sujets qui fâchent un peu plus, enfin en tout cas un petit peu plus passionnés. Première question que je voudrais poser aux as de la copro, la convention de prestation de service signée entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, Quesaco, c'est neuf, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pierre-Édouard, qu'est-ce que c'est ?
Un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil parce qu'en fait, c'est un mécanisme de lutte contre les conflits d'intérêts lorsque le syndic veut proposer des prestations qui ne sont pas celles du syndic qu'il propose habituellement, donc au titre de son contrat, mais qui sont d'une autre nature. Ça pourrait être, par exemple, une entreprise de courtage d'assurance, ça pourrait être une entreprise de ménage, de nettoyage des parties communes, de sortie des poubelles, des choses comme ça qui n'ont rien à voir
directement avec bricolage.
Multiservice, absolument. Et si le syndic veut proposer directement, c'est-à-dire sous sa casquette, sous la personne morale qui exerce les fonctions de syndic, à ce moment-là, il doit proposer une convention spécifique et surtout, il doit être autorisé, c'est ça le mécanisme, autorisé expressément pour que les copropriétaires sachent exactement que c'est bien le syndic qui propose cette prestation et pas un tiers. Et donc, il y a une procédure de protection du syndicat des copropriétaires. C'est pour ça que c'est un peu un trompe-l'œil, parce qu'on a appeler ça une convention de prestation de service, alors qu'en fait, c'est un mécanisme d'autorisation préalable à ce que le syndic puisse délivrer cette prestation-là. Et ça existait déjà dans le décret à la fois de 1967 et dans la loi Auguet, son décret donc 70 et 72. Et c'est simplement une façon de l'avoir remonté dans la loi de 1965 pour l'afficher de manière beaucoup plus forte, de manière beaucoup plus évidente, pour que les copropriétaires puissent se saisir de cette question du conflit d'intérêts et de mieux réguler la pratique.
Alors, c'est vrai que convention de prestation de service, donc c'est nouveau de l'ordonnance Elan de 2019. Je ne sais pas si beaucoup de syndics ont bâti des conventions de prestation de service. Est-ce qu'elles en ont beaucoup proposé? C'est vrai qu'on ne sait pas quoi mettre dedans parce que, un, il faut que ça réponde à l'objet social du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire la conservation, l'administration et l'amélioration de l'immeuble. Il ne faut pas que ce soit dans les missions du syndic qui sont déjà très, très larges. Donc, au final, on met quoi dans cette convention de prestation de service? Mathieu, est-ce que vous avez commencé à réfléchir dessus chez Foncia?
Oui, alors je pense qu'il faut rien s'interdire, mais comme vous le dites, hein, il faut déjà que le syndic soit qualifié pour le faire, qu'il soit assuré pour le faire, et il faut que ça rentre dans l'objet du syndicat. Il y a sûrement des très bonnes idées, mais il faut aussi que ça intéresse les copropriétaires. Aujourd'hui, l'expérience montre qu'il y a un type de convention de prestation de service qu'on retrouve un peu partout, qui est la prestation d'assistance 24/7, c'est-à-dire qui consiste, en dehors des heures ouvrables du cabinet du syndic, à mettre une astreinte qui déclenche des interventions en cas d'urgence, en cas de fuite d'eau, en cas d'engorgement, en cas de panne électrique, le soir ou le week-end. Donc, à part ça, j'en connais pas d'autres.
Alors, faire une convention de prestation de service juste pour 24/7, en plus, je crois que tout le monde n'est pas d'accord autour de la table. Pierre-Edouard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça rentre pas déjà dans l'émission du syndic, ça?
La question, en tout cas, est ouverte parce que on peut s'interroger sur la nature de la prestation qui est proposée. Il faut voir si cette prestation correspond aux missions de syndic ou si elles vont au-delà. Est-ce que la prestation qui est proposée donc en nocturne, parce que c'est ça hein, la pratique, c'est de savoir est-ce que une fois que les bureaux sont fermés, est-ce que le syndic est toujours syndic? Ce serait la première question. Et est-ce que les prestations qui sont proposées au-delà de la fermeture correspondent aux missions ordinaires du syndic? Si oui, aux deux questions, à ce moment-là, on peut se poser la question de la validité de la prestation de service. Si on propose autre chose, si on propose différemment des missions qui ne seraient pas proposées par un syndic, à ce moment-là, peut-être que la prestation pourra valoir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra regarder au cas par cas et voir si c'est dans l'intérêt des copropriétaires et si ça va au-delà des fonctions du syndic.
Alors, c'est vrai que, bon, il y a débat. Qu'est-ce qu'on met dans cette convention de prestation de service? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple, finalement, et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question de cette séquence, le métier de syndic? Finalement, est-ce que ça n'aurait pas été peut-être plus simple?
Je veux bien répondre quand même à l'intervention de Pierre-Edouard, parce que, effectivement, il y a discussion. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que le syndic n'est pas à dispo 24/24. Et le système de la convention de service, qui certes peut être discuté, et le plus transparent, le plus facile à mettre en œuvre, il est voté en AG. Il y a une convention, on sait exactement l'objet. Jouer avec le contrat de syndic et dire « je vais juste étendre les horaires et garder mon agence ouverte toute la nuit », on comprend bien que c'est pas possible. Donc la réglementation n'est pas simple, mais je pense que quoi qu'on en dise, ce qu'il faut, c'est que la prestation soit très claire, notée dans une convention, votée en Assemblée Générale. Voilà, 24/7 ou autre chose. Après, ce sont les copropriétaires qui choisissent si ça les intéresse ou pas. Et le fait qu'il y ait du 24/7 proposé par tous les grands groupes montre que là, pour le coup, c'est quelque chose qui intéresse et c'est un vrai besoin des copropriétés.
Bon, en tout cas, à creuser, ce que je retiens aussi, c'est que c'est vrai que si on veut proposer un service, on ouvre une filiale, tout simplement, avec une autre entité juridique, courtage en assurance, vous en parliez, j'ouvre un cabinet de courtage. Voilà, qui oui. Doit quand même passer sous l'autorisation de l'Assemblée Générale, puisqu'il y a les liens capitalistiques et de direction. Donc au final, c'est vrai qu'on en revient toujours à ce qui préexistait avant la réforme.
Il n'y a pas eu d'explosion des conventions de services et des services proposés par les syndics, et il n'y en aura probablement pas.
C'est ce que je pense aussi. Le contrat de syndic type, alors justement, c'est la deuxième question. Ma deuxième question, la concertation bisannuelle du contrat type ou du décret portant sur le contrat type aura-t-elle lieu? De quoi on parle quand on parle de ça, Alexis de Coster?
Bisannuel, je crois que c'est tous les deux ans.
Tous les deux
ans. Mémoire, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant en me remémorant et en relisant l'article 18 notamment et le décret. Écoutez, j'ai pas.
Tous les deux ans. Et là, on est à combien?
Je pense qu'on est à peu près à.
7 ans?
7 ans, voire.
Puisque le décret de 2015.
Mars 2015.
Mars 2015.
Ça fait 7 ans.
7 ans. Donc ça veut dire qu'effectivement, si ça fait 7 ans, ça veut dire que c'est presque maintenant qu'il faut peut-être aussi de revoir et rappeler au ministère, effectivement, les engagements qui sont quand même codifiés dans les textes. Cette concertation bisannuelle, alors visiblement, il semblerait que le dernier décret qui est paru en juillet 2020 fasse office de concertation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le dernier modificatif du contrat vale cette concertation.
Alors que j'appelle moi... pas au courant.
Donc personne visiblement n'était au courant. Donc c'est une concertation, c'est un nouveau concept, la concertation unilatérale.
Unilatérale, oui, c'est ça.
Donc effectivement, si c'est le cas, donc ça veut dire que dès juillet 2022, il faudra qu'on... l'ensemble de la profession s'en rappelle au bon vouloir du ministère du Logement pour qu'avec le CNTJ, on puisse rediscuter d'un certain nombre de dispositions du contrat type de syndic pour ou restreindre ou enlever un certain nombre de dispositions, voire rajouter...
Faire évoluer tout simplement, discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas. Les choses ont bien changé depuis 7 ans en termes de réglementation. Bon, il y a eu une petite mise à jour technique et qui vaut donc, comme vous le dites, concertation. Ça reste très, très discutable. Des évolutions sociologiques, des évolutions technologiques. Justement, ce contrat de syndic aujourd'hui, si on devait le faire évoluer, dans quel sens on pourrait le faire évoluer ?
J'ai envie de dire d'enlever certaines missions pour les isoler, parce que les gestionnaires, ils ont un éventail, et les syndics ont un éventail de prestations à effectuer. Je pensais notamment à tout ce qui était paie des gardiens, concierges et employés d'immeubles. On peut se poser aussi la question de la structuration de notre profession, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, Alexis, sur le CNTGI, qui est un peu un organe moribond. Enfin, on n'en entend pas parler. Donc, moi, je pense que notre contrat, pour qu'il évolue, il faudrait qu'il y ait un ordre, il faudrait qu'il y ait une fédération des syndics.
Un syndicat uni,
actif, qui redore un peu aussi le blason de notre profession, qui fasse de la pédagogie, qui fasse de la communication, parce que sinon, on ne pourra pas le faire évoluer, ce contrat, puisqu'on sera complètement dans un deal mercantile avec nos copropriétaires et financiers. Et on aboutira, selon moi, à rien, et au détriment de la qualité.
Contrat de syndic réglementaire, sclérosé, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Edouard ?
Moi, ce qui me frappe d'une certaine manière, ici, mais de manière générale, quand on discute avec les syndics de copropriété de leur contrat, c'est qu'en 2014, lorsque l'idée du contrat type a émergé, il y avait un vrai bouclier contre cette idée, parce qu'il y avait des contrats qui étaient assez librement discutés, même s'il y avait l'arrêté Novelli, mais... il y avait un encadrement qui laissait encore un peu de marge de négociation. Et avec le contrat type, on se rend compte que tous les syndics l'ont accepté. Et la preuve, c'est que là, en ce moment, on est en train non pas de discuter de contrat type lui-même, mais on est en train de discuter de comment est-ce qu'on peut éventuellement aménager le forfait, le hors-forfait, comment on peut faire évoluer un petit peu les choses.
De l'accepter.
Non, mais la question peut toujours se poser. À partir du moment où on est dans la concertation avec les pouvoirs publics, est-ce que la régulation, on pourrait se poser cette question, est-ce que la régulation a fonctionné ? Est-ce que c'est profitable aux copropriétaires ? Est-ce que ça permet une bonne économie de marché ? Est-ce que ça permet une libre concurrence ? Est-ce que, finalement, le contrat type répond à son office ? Et c'est ça la question qu'il faut poser si on veut, en tout cas, discuter demain avec les pouvoirs publics, c'est de savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on l'améliore. Si ça fonctionne pas, on revient dessus. Mais je pense que c'est la première question qu'il faudrait se poser. Et lorsqu'on aura répondu à cette question, il faudra se poser celle de l'amélioration au nom du contrat.
Parce qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer un contrat de mandat pur d'une page, puisque je rappelle quand même que le syndic est mandataire et pas prestataire. C'est vrai que le contrat type ressemble à un contrat de ménage, avec des tâches. 11 pages, quand même. Imaginez un contrat de syndic mandat pur, l'identité des parties, la durée, le prix, l'objet du contrat, terminé. On renvoie ensuite à l'article 18 de la loi de 65 et toutes les autres articles où on a les obligations du syndic qui sont de toute façon d'ordre public. Et puis après, on renvoie d'une façon plus générale au devoir du mandataire, code civil. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, moi je pense que le contrat type est quand même assez bénéfique et il a permis quand même de mettre en place une concurrence sur des bases saines, équivalentes. Les copropriétaires savent exactement à quoi s'engage la personne qu'ils ont en face. À mon avis, personne ne souhaite le remettre en cause. Je peux me tromper, mais à mon avis, personne. Non, ce que je pense, c'est que nous, syndic, on a la responsabilité d'expliquer à nos copropriétaires que c'est pas parce qu'il y a un contrat type que les honoraires doivent être les mêmes d'une copropriété à l'autre. La charge de travail n'est pas la même. Marie-Hélène parlait de la gestion des gardiens. Bah, quand on gère un gardien, forcément, il faut faire les payes, il faut faire toute la gestion du personnel. ça a un coût, et ce coût-là, eh ben, il faut qu'on explique et qu'on fasse de la pédagogie pour qu'il se retrouve dans le forfait de base. Et qu'on ne soit pas toujours sur des comparaisons sur la base d'un prix par lot en fonction du nombre de lots.
Alexis,
qui n'a pas de sens. Effectivement, il faut revenir avant 86. Hein, avant, effectivement, c'était un arrêté préfectoral. Et on voyait bien qu'effectivement, vous aviez les différents coefficients qu'on ajoutait en fonction ou en présence ou en l'absence d'un chauffage collectif, la présence ou l'absence d'un gardien ou d'un employé d'immeuble, la présence ou l'absence de compteur d'eau. Tout ça, auparavant, c'était codifié. Et donc, effectivement, il y avait des francs.
Des barèmes.
Des barèmes, une sorte de barème.
C'est resté dans la pratique.
Alors, c'est resté, sauf que c'est plus noyé aujourd'hui. C'est qu'on ne tarife pas aujourd'hui. On a du mal à sortir, finalement, d'une tarification au lot un peu, je dirais, au doigt mouillé. Il n'y a pas de démarche véritablement scientifique quand on fait une tarification. Ça, c'est toute la problématique. Aujourd'hui aussi, du prix de revient d'un lot en copropriété. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, l'ensemble de la profession soit en capacité de déterminer, en fonction de la charge de travail, si effectivement le modèle économique, parce que ce n'est pas un mot grossier que de dire ça, est intéressant quand il y a une tarification derrière. Bon. Donc effectivement, il faut qu'on puisse... je pense qu'on ne reviendra pas aussi sur cette nature de contrat type de syndic. En revanche, il faut qu'on puisse moduler, hein, puisqu'un immeuble, aujourd'hui, on a le même contrat qu'on gère de l'eau ou qu'on en gère 5 000. Donc c'est peut-être sur le fait de pouvoir moduler un petit peu c'est peut-être ces différents contrats types.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a matière à faire évoluer le contrat de syndic. Le sujet, c'est la concertation aura-t-elle lieu ? Pour l'instant, bon, personnellement, je le dis, enfin, à titre personnel, pour moi, elle n'a pas eu lieu. La prochaine, donc, on l'attend, hein, si c'est 2022, on voit bien, il y a matière à débat. Je vous remercie, je boucle sur cette question et on passe à la séquence suivante, la question du copropriétaire.
Les As de la CoPro, la question du copropriétaire.
Alors, deuxième question d'un copropriétaire. Là, on parle encore syndic. On entend beaucoup de choses sur les syndics, syndic en ligne, néo-syndic. Là, on va nous parler du syndic en ligne. On écoute.
Bonjour à tous. Je suis président de conseil syndical dans une copropriété qui se trouve à Paris. Et j'avais une question sur les syndics en ligne qui, par définition, ne se déplacent donc jamais. Et je voulais savoir si ces services étaient légaux. Et ce qu'en pensaient les personnes présentes sur le plateau, sachant que le syndic est censé être un représentant légal des copropriétaires, comment se passe par exemple la réception des travaux en fin de chantier, sachant que le syndic ne se déplace pas, qui prend la responsabilité de cette fin de chantier? Aussi pendant l'Assemblée générale, sachant que le syndic, je crois, doit être secrétaire de séance, qu'est-ce qui se passe quand le syndic est absent? Est-ce qu'il peut endosser le rôle de secrétaire de l'Assemblée générale? Merci.
Bon, donc deux difficultés sur le syndic en ligne. Alexis, je vais vous laisser la parole. Le syndic en ligne, donc on l'a compris, il ne se déplace jamais. Comment on fait pour les réceptions de chantier, l'Assemblée générale?
Alors sur ce sujet-là, en fait, syndic en ligne, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre une offre et une demande. C'est-à-dire que les copropriétaires qui choisissent ce modèle, forcément, proposeront un modèle d'organisation. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'ordonnancement et l'arsenal un peu juridique, on a les éléments pour qu'effectivement la gestion en mode syndic en ligne fonctionne, puisqu'on pourrait très bien déléguer au conseil syndical, hein, utiliser la faculté de délégation soit à l'article 25 ou les articles 21, pour déléguer un certain nombre de missions au conseil syndical, et notamment sur la réception de travaux. Le syndic en ligne...
C'est déléguer ou se faire substituer, là? Parce que ça veut dire que c'est le conseil syndical qui devient le représentant du maître d'ouvrage à la réception.
Alors oui, ça peut faire partie, pardon, de cette délégation qui est votée en Assemblée générale. Ça n'enlève pas, et ça n'enlèvera pas, à mon sens, la responsabilité du syndic, puisque c'était un vrai syndic avec la carte S. Mais je pense que c'est plus un mode d'organisation, et ce que je le disais, je le répète, hein, une adéquation entre l'acceptation d'un modèle par les copropriétaires sur ce type de gestion. On parlait tout à l'heure du contrat de syndic. On peut imaginer que sur une certaine taille d'immeuble en copropriété, ce modèle d'organisation, ce modèle de mission
Alors
peut
effectivement,
être intéressant.
Pour les petits immeubles, on parle de co-gestion, mais à un moment donné, effectivement, ce président de conseil syndical évoque les limites de cette co-gestion et surtout en termes de déplacement physique. La réception de chantier, l'Assemblée générale, ce syndic est secrétaire de droit. Secrétaire de droit, ça veut dire
mais ça n'est pas une obligation, sauf votre contrat de l'Assemblée générale.
Sauf votre contrat, mais s'il n'est pas là, le syndicat ne peut pas exercer sa faculté de choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu ?
Ouais, moi, je pense qu'on est vraiment sur une ligne de crête juridique. Hein. On sent qu'il y a des artifices ou des votes en AG qui pourraient permettre de rendre un peu conforme le syndic en ligne. À mon avis, on a besoin d'un éclaircissement sur le sujet parce qu'il y a quand même un besoin là aussi. Hein. Il y a des copropriétaires qui le souhaitent, qui le demandent. Il y a des syndics qui acceptent de présenter cette offre. Donc, à mon sens, on parlait tout à l'heure de la concertation sur le contrat de syndic, ça peut peut-être être un sujet abordé par le contrat de syndic. On a besoin d'un éclaircissement. Ouais. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que je trouve quand même que les syndics en ligne prennent des risques. Ils sont syndics, donc ils sont responsables. Et moi, je me sentirais pas d'être responsable de la sécurité incendie d'une copropriété sans venir voir régulièrement dans quel état elle est. Je trouve que ce sont des syndics qui ont vraiment confiance dans le conseil syndical qui va être leur relais, qui va être son relais sur place, quoi.
Donc voilà, on sent quand même qu'on n'est pas très à l'aise avec la question. Pierre-Edouard, en deux mots, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois qu'il y a des raisons de ne pas être très à l'aise avec la question, d'autant plus que, en fait, la délégation, on pourrait en discuter, c'est un petit peu technique, mais l'Assemblée Générale a des pouvoirs de déléguer, mais son propre pouvoir, en fait, parce que quand on regarde le texte de l'article 25A ou les articles 21.1 et suivants, l'Assemblée Générale délègue le pouvoir de prendre une décision, mais c'est le pouvoir qu'elle détient. Et il n'est pas du tout certain, et moi, en tout cas, je ne le crois pas, que l'Assemblée Générale puisse décider de déléguer le pouvoir du syndic, parce que ce sont des pouvoirs propres du syndic de copropriété, la réception, la tenue de l'Assemblée Générale, là il y a une disposition spécifique, donc ça ne pose pas de difficulté, mais pour la représentation du syndicat dans la signature des contrats, la représentation du syndicat dans la réception des travaux, etc., là on a une représentation légale de plein droit, de par l'article 18, qui le prévoit de manière très claire.
Mais l'article 18, c'est quand même une disposition qui permet exceptionnellement de déléguer spécialement une démission du syndic, qui permet
effectivement à l'initiative du syndic de déléguer ses fonctions à un tiers, mais dans ce cas-là, on n'est pas sur les dispositions, c'est pour ça que j'espère un petit peu technique, mais on n'est pas sur la délégation de l'article 25A ou 21.1, on est sur les délégations de l'article 18, c'est à l'initiative du syndic de copropriété qui demande la délégation, et on n'est pas du tout sur les mêmes mécanismes de responsabilité. Et à ce moment-là, je vous rejoins, et on peut trouver des mécanismes, mais c'est... On voit bien toutes les limites du système et l'inconfort que ça peut créer dans l'articulation des dispositions légales.
Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le premier syndic, ouais, ça a à peu près 10 ans d'existence.
2014, le premier.
2012-2014, je ne sais plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de jurisprudence à date. La DDPP, visiblement, va commencer à s'intéresser au sujet, mais on n'a rien vu non plus à ce titre. Sur ce mode de...
Parce que dans le contrat de syndic du syndic en ligne, le paragraphe tenu de l'AG, il est rayé,
c'est-à-dire
que
sur...
Ça veut dire que le syndic, sachant à l'avance qu'il ne va pas y aller, le paragraphe est rayé. Or, on ne peut pas... Le décret ne nous permet pas de le rayer, celui-là.
On ne touche à rien, effectivement, à ce qu'il y a sur le décret.
Bon, alors... Voilà, ligne de crête, on est limite, il y a l'article 18, peut-être possibilité déléguée, mais bon, ça reste très discutable. En tout cas, très bonne question de ce copropriétaire.
On a besoin d'éclaircissement.
Exactement. On n'a pas encore de jurisprudence, peut-être qu'il y en aura, j'espère que ça ne tombera pas sur nous. Moi, je ne fais pas de syndic en ligne, merci. Et je vous propose tout de suite de passer à la dernière séquence, la séquence politique.
Les As de la Copro, la séquence politique.
Allez, dernier plateau de cette grande première, la séquence politique. Je voudrais qu'on parle, pour commencer, du pré-état daté. Alors, je le mets entre guillemets, le terme pré-état daté. Y a-t-il quiproquo ? Mathieu, c'est quoi ce pré-état daté ?
Alors, Gilles, je pense que vous évoquez un quiproquo, une confusion entre l'état daté et le pré-état daté, ce que la pratique appelle pré-état daté. Pour moi, il n'y a aucun quiproquo. Hein. Ce sont deux choses bien distinctes. L'état daté, il est prévu par la loi de 65. Il est dans la mission du syndic à l'occasion d'une mutation. Un état daté doit être dressé, doit être transmis au notaire et il permet de solder en fait, les comptes entre l'acquéreur et le vendeur. Celui-là, il est très clair et le syndic remplit cette mission en application de son contrat.
Et ses honoraires sont plafonnés à 380€ TTC.
Absolument. Ce qu'on appelle le pré-état daté, c'est finalement une prestation qui s'est mis en place parce qu'il y avait une demande et qui vise à aider un vendeur à constituer le dossier d'information et de documents. Voilà, c'est ça. En fait, le vendeur a maintenant l'obligation, à l'étape de la promesse de vente, de fournir un certain nombre d'éléments, des informations financières et des documents.
Pour faire courir le délai de rétractation.
Voilà, et puis surtout pour que l'acquéreur soit pleinement informé avant de signer la promesse de vente, ce qui est très vertueux. Sauf que c'est une obligation qui pèse sur le vendeur. Mais le vendeur, voilà, a besoin, c'est quand même un petit peu technique, il a besoin de ne pas faire de bêtises, de ne pas donner d'éléments erronés. Et donc, il se tourne naturellement vers le sachant qui est le syndic.
Pour l'aider.
Pour l'aider, voilà. Et donc là, il n'y a pas de quiproquo parce qu'il y a la rencontre entre un besoin, une offre, et à partir du moment où on se met d'accord et où on passe finalement une convention de service, alors là, plus avec le syndicat, mais avec un copropriétaire, il n'y a pas de raison d'en faire toute une histoire.
Ça veut dire que le syndic fait un devis au copropriétaire vendeur.
Ce qu'il faut, c'est que ce soit très transparent. Il faut bien expliquer au vendeur de quoi il s'agit. Peut-être lui expliquer également que tous ces éléments, toutes ces informations, il peut les retrouver sur son extranet. Ben voilà, on sait que le vendeur, il n'a pas. D'abord, c'est un peu technique, donc il n'a peut-être pas envie de s'embêter avec ça. Et puis aussi, il n'a peut-être pas envie de prendre la responsabilité de lui-même aller identifier les informations financières, de peut-être faire une erreur. Donc. Voilà, il trouve le syndic qui est prêt à le faire, qui accepte de le faire, et tout le monde est content.
Parce qu'effectivement, il y a, on va dire, polémique autour de certaines facturations, puisque dès que le syndic facture, il y a un abus. Tout est sur l'extranet, on a dit. Donc le vendeur, finalement, il peut aller les chercher tout seul, ces informations.
Pratiquement, il peut transmettre ses codes, à la limite, à son notaire, si le notaire veut se charger de collecter les documents. Donc ça, c'est complètement transparent, comme le disait Mathieu. Et s'ils veulent qu'on se charge de la collecte de ces documents et de la compilation de ces documents, eh bien, on le fait avec un devis qu'ils approuvent avant de faire une quelconque facturation. Donc c'est complètement transparent. Moi, je pense que c'est plutôt une chose, il n'y a pas de quiproquo, effectivement.
Il n'y a pas débat, il n'y a pas sujet, il n'y a pas sujet à polémique. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'appeler ça le prêt à dater, vous appelez ça comment chez vous?
On appelle ça le dossier promesse de vente.
Le dossier promesse de vente.
On constitue un dossier pour le vendeur, il a tout ce qu'il faut.
Donc le syndic, Pierre-Edouard, n'agit pas S-qualité de syndic, il agit S-qualité prestataire à titre individuel d'un copropriétaire qui lui-même est qualité vendeur.
Exactement, c'est un commode intermédiaire qui dispose des informations, qui peut réaliser la prestation assez facilement, donc il va dresser un devis à cette fin qui va être accepté par le copropriétaire, il va réaliser la prestation en fait pour faciliter la vie des différents opérateurs qui sont l'agent immobilier éventuellement qui intervient et qui ne veut pas s'en charger, du notaire qui ne veut pas non plus s'en charger et du vendeur qui ne veut pas ou qui ne sait pas s'en charger. Et je trouve que c'est en quelque sorte une fausse polémique de venir dire que c'est un document qui n'existerait pas ou autre. Bon, certes, le prêt état daté n'est pas nommé dans la loi. On sait parfaitement que le dossier est nécessaire pour la vente. On a les dispositions au code de la construction. Donc, il n'y a pas de difficulté, on le sait. Et je suis d'accord avec ces
interprétations. Là où il y a polémique,
une fausse polémique.
Là où il y a polémique, c'est quand le notaire dit « Votre syndic doit faire ce prêt état daté ».
Il devrait dire « peu ».
Voilà, il devrait dire « peu ».
Absolument.
Il devrait lui dire aussi « Vous pouvez aller chercher les informations vous-même ».
Et dans ce cas-là, vous prendrez la responsabilité de la véracité des informations que vous donnerez.
L'extranet est une obligation, hein, donc, et avec les listes de documents collectés y compris. Donc les gens y ont librement accès.
Effectivement, et le syndic pourrait très bien dire « Non, désolé, je ne fais pas ce genre de prestation, quel qu'en soit le prix, je ne propose pas ce genre de prestation et on ne pourrait rien lui reprocher. » Je vous remercie, on va passer à la toute dernière question. Alors bon, c'est un peu dans l'air du temps, c'est bientôt les élections présidentielles, bientôt les élections législatives, il va y avoir nomination d'un nouveau ministre du logement, alors, ou secrétaire d'État. Est-ce qu'on peut dire ministre? Est-ce qu'on peut dire logement? En ce moment, il y a une demande des syndicats professionnels, Alexis. On aimerait bien un grand ministère du logement, de l'habitat.
Alors, c'est une question de sémantique. Un grand ministère, alors, soit de l'immobilier, soit de l'habitat, soit du logement.
Il y a plusieurs noms.
Il y a plusieurs noms. Peut-être question de sémantique, effectivement. La difficulté qu'on ressent, nous, dans la pratique, c'est qu'on est un peu parfois tiraillé entre différents ministères.
Un peu baladé,
oui. Et donc, du coup, ça se ressent sur la rédaction des textes, sur la mise en application. Donc, je ne sais pas si c'est un super grand ministère pour régler l'ensemble des problématiques ou s'il faut effectivement quelqu'un qui centralise l'ensemble des différents points de ces différents ministères. En tout cas, le sujet mérite d'être abordé dans le cadre de la future élection présidentielle.
C'est vrai que les professionnels ont besoin d'un interlocuteur unique. Est-ce que entre la chancellerie, que vous connaissez très bien, Pierre-Edouard, et le ministère du Logement, ça communique? Est-ce qu'on s'entend bien entre ces deux ministères? Oui, mais après, la difficulté qui se pose, c'est une considération culturelle, c'est-à-dire que à la chancellerie, on a une habitude juridique qui va être de travailler les textes, de travailler les textes dans leur cohérence d'ensemble, et pas seulement, par exemple, sur la loi de 1965, mais dans un ensemble plus large, qui est celui du droit des biens, donc du code civil, et d'essayer de garder une cohérence pour tous ces textes. Et c'est vrai que la difficulté qui peut se poser, si on transfère la compétence à un ministère du logement, ou de l'écologie, ou autre, c'est d'avoir des textes nouveaux qui soient complètement décorrélés du système global dans lequel s'insère la copropriété, parce que c'est pas une matière hors sol. On travaille quand même sur du droit des biens, avec le droit de propriété, des choses qui sont, voilà, de droit privé et qui sont tout à fait ordinaires, même si je suis persuadé que c'est une matière extraordinaire. Mais si on le transfère à l'écologie ou à l'habitat, on va avoir des textes qui pourront être hors sol. Et c'est vraiment ça la difficulté. Et je crois qu'on en a fait un petit peu les frais sur certaines réformes avec certains textes. On s'est demandé un petit peu d'où ça venait, comment ça venait et comment on avait pu en arriver là.
Il manque une cohérence
d'ensemble. Et je pense que c'est parce qu'il y avait
un
travail qui n'était pas toujours passé.
On pourrait parler du code de la copropriété qui a été abandonné, enfin en tout cas suspendu.
La codification, oui.
La codification, que veulent les professionnels?
Enfin, vous le dites, Gilles, hein, le besoin numéro un, c'est de la cohérence. Je crois qu'on a une loi emblématique qui est la loi climat, ou même d'autres lois connexes qui posent des obligations pour les bailleurs, des obligations pour les copropriétés. Il y a aussi des obligations pour les propriétaires de locaux commerciaux. Est-ce qu'il y a de la cohérence entre toutes ces obligations? On n'en a pas vraiment l'impression.
Une réflexion d'ensemble, est-ce qu'on prend aussi suffisamment le temps pour faire ces réformes?
On en parlait juste avant avec le prêt d'adapté, c'est une disposition du code de la construction, mais qui a un impact malgré tout sur l'habitat en collectivité, en copropriété.
Donc, et on a besoin de trois choses, hein. Cohérence, stabilité aussi, que ça ne change pas toutes les 5 minutes.
Oui.
Et simplicité. On a vu que l'ordonnance de 2019, elle était censée simplifier beaucoup de choses. Tout ce qui a été mis en place apporte de la difficulté. Les votes par correspondance, l'abaissement des majorités, on pourrait en parler, les passerelles qui se multiplient. Voilà, la délégation au conseil syndical, que personne ne sait faire fonctionner. Tout a apporté de la complexité. Donc je ne sais pas s'il faut un super ministère de l'habitat. En tout cas, il faut beaucoup de concertation, beaucoup de réflexion
et une vision pragmatique. Où on veut aller, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'habitat, oui, et de comment on veut les gérer.
Je vous remercie. Je resterai sur ces trois mots positifs. On veut de la cohérence, de la stabilité et de la
simplicité.
Et de la simplicité.
Dans la mise en avant.
Voilà les trois mots qu'il faudra retenir de cette grande première émission. Je vous remercie vraiment beaucoup, mes chers invités. Donc, je rappelle Alexis de Coster, vous êtes directeur métier ADB, syndic, administrateur de biens, crédit agricole, immobilier, services immobiliers. Mathieu Mialaret, directeur métier chez Foncia. Marie-Hélène Leca, directrice de plusieurs agences chez Auralia, mandataire sociale. Et enfin, merci Pierre-Édouard Lagrolet, avocat au barreau de Paris, auteur du livre, je leur fais encore un peu de pub, de cet ouvrage Le Syndic.
Un livre de chevet.
Oui, de référence. Exactement, de chevet. Le Syndic de copropriété chez Edilex. Je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne journée. Merci.
Merci Gilles.
Merci Gilles, merci à tous.
Merci.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.